Ce matin, ouvrons nos Bibles, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24, verset 24. Vous verrez le texte apparaître aussi à l'écran. Il est question de l'apôtre Paul qui s'adresse à un homme, Félix. Félix, c'est un homme politique de son temps, c'est un gouverneur romain à Césarée. Et dans les prisons de ce gouverneur, il y a Paul. Et de temps à autre, Félix fait venir Paul vers lui. Et nous lisons que quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Félix me rappelle bien des hommes d'aujourd'hui. Des hommes qui aiment entendre parler de Jésus. Mais lorsqu'il est question de l'amour, des promesses, des bénédictions. Mais dès qu'il s'agit de dire tout l'évangile et de parler notamment de la justice de Dieu, du jugement à venir, de la tempérance, alors deviennent tout d'un coup effrayés. Quand Paul parlait de bonnes choses, entre guillemets, à Félix, celui-ci écoutait, mais lorsque Paul mettait l'accent sur des choses que Félix devait entendre, et notamment le jugement à venir, celui-ci lui disait « Pour le moment, retire-toi ». Et peut-être, dans vos occasions de témoigner du Seigneur, vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. Vous leur parlez de l'amour, de la bonté du Seigneur, de la paix de Dieu, des promesses de Dieu. Alléluia! Vous leur parlez du jugement à venir, de la justice de Dieu, et il n'y a plus personne. On ne veut plus nous entendre. Félix aussi ressemble en ce point à beaucoup d'hommes aujourd'hui, même dans nos églises. C'est que la seule chose qu'ils veulent entendre du Seigneur, c'est « Qu'est-ce que je vais recevoir ?»« Que vais-je recevoir du Seigneur ?» Mais la Bible a... Certes, tu es un Dieu qui donne. Mais la Bible a des choses à nous enseigner aussi, qui concernent la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous ne devons pas être effrayés comme Félix à l'égard de ces thèmes qui sont le jugement à venir, la justice de Dieu. Ce matin, nous allons les aborder directement. Nous allons les aborder parce que la Bible classe la doctrine du jugement éternel parmi les doctrines fondamentales de la foi chrétienne dans Hébreux 6:2. Elle la met au même niveau que la doctrine de la repentance, que la doctrine de la foi, de la résurrection. Elle nous parle du jugement à venir. Et nous devons la connaître, sans peur, mais en étant avertis de tout ce que Dieu veut nous instruire. Le Seigneur lui-même, d'ailleurs, a longuement parlé, souvent parlé, sur la question du jugement et de l'enfer. S'il ne dit pas ça, s'il disait cela, c'est encore une fois non pas pour nous apeurer, mais c'est pour nous avertir. Mais ce matin, mon désir en abordant ces questions, et nous allons parler de choses qui sont difficiles, certes, c'est surtout de décontaminer la question du jugement dernier et la question de l'enfer, décontaminer cela de toute les mythologies pagano-religieuses qui l'ont affecté. Au premier plan de ces mythologies, peut-être certains d'entre vous, vous l'avez lu, vous en avez entendu parler, c'est ce livre qui marque la culture populaire, écrit vers la fin du Moyen-Âge par cet Italien Dante, La Divine Comédie. Et, comme il le dit, c'est une divine comédie, la présentation qu'il nous fait de l'enfer et du paradis. Mais nous devons revenir à ce que la Bible nous dit afin d'avoir une foi saine en toutes choses. Alléluia. Alors ce matin, nous parlerons de trois choses. Nous parlerons de ce qu'il advient de ceux qui sont pécheurs après leur mort. Sitôt après leur mort, que leur arrive-t-il ? Et puis nous parlerons ensuite du jugement dernier, le grand trône blanc. Et enfin, nous parlerons de ce que la Bible appelle les temps de feu, la géhenne, l'enfer. Alors commençons, si vous le voulez bien, ces choses par la question du devenir pécheurs après leur mort. La Bible parle d'un endroit qui s'appelle le séjour des morts, en grec Hadès, en hébreu Sheol. Et elle nous dit que, à leur mort, les hommes voient leur être se séparer. L'esprit souffle de vie qui vient de Dieu remonte vers Dieu. Leur corps va dans la tombe pour la plupart. Quant à leur âme, elle survit. Nous croyons dans la survivance de l'âme après la mort. Elle demeure éternellement, elle est indestructible. Mais ce qu'il advient de l'âme après la mort dépend des orientations de notre vie, et notamment, et autre, surtout, de savoir si nous nous sommes repentis et si nous avons cru en Jésus-Christ. Si nous avons cru en Jésus-Christ, alors gloire à Dieu, nous ne craignons pas la mort. Mais nous savons que le Seigneur récupère notre âme, prend notre âme et la transporte dans les lieux célestes, dans le paradis, dans l'attente de la résurrection. Mais la Bible nous met en garde quant à tous ceux qui n'ont pas cru. Et ceux qui n'ont pas cru, alors doivent savoir que leur âme indestructible s'en va, elle, dans ce lieu que la Bible appelle l'abaddon, le puits de l'abîme. C'est un lieu de ténèbres. C'est un lieu dont la fréquentation n'est pas du tout agréable, parce que c'est dans ce lieu que sont tenus captifs tous les démons, chassés et liés. Ce lieu est un lieu d'attente. Quelle attente ? L'attente du jugement à venir. Et tous ceux qui sont dans ce lieu sont appelés par l'apôtre Pierre les esprits qui sont en prison. Ils sont dans ce lieu et ils sont sans espérance. Ils sont dans ce lieu et ils sont aussi dans un état de conscience. Jésus nous parle de cette histoire du riche et du pauvre Lazare. La connaissez-vous ? Et il nous dévoile ce qui se passe après la mort. Notamment, il nous parle de ce riche qui lève les yeux et il voit de loin Abraham et Lazare qui est dans son sein. Quant à lui, le riche, il le dit, il est en proie au tourment. Et il prie Abraham d'envoyer Lazare pour lui toucher avec un peu d'eau le bout de ses lèvres, tellement la souffrance est cruelle. Mais Abraham lui dira, ce n'est pas possible. Ce que nous dédisons de cette histoire, c'est que le riche dans l'abîme continue de voir, de parler, de ressentir et de se souvenir, notamment de ses frères, puisqu'il demande aussi à Abraham d'envoyer Lazare pour avertir ses frères des choses qui se passent après la mort. Abraham lui dit, non, c'est pas possible. Ils ont Moïse, qu'ils écoutent Moïse. Ainsi, les captifs sont dans ce lieu, en proie au tourment et dans l'attente du jugement. Ce jugement qui doit venir, c'est celui que la Bible appelle le jugement dernier, celui du grand trône blanc. Dans les temps de la fin, il y a plusieurs jugements. Dieu va juger les anges, Dieu va juger les nations, Dieu va juger l'Église et Dieu va juger les pécheurs. Chaque jugement est un jugement particulier avec un tribunal particulier. Le juge, c'est Jésus. Je voudrais qu'avant d'aller plus loin, nous puissions lire ce texte dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, qui nous dévoile les choses qui doivent venir lors de ce jugement. Je commence avant le verset 13 qui est affiché, et au verset 11, il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous sommes à ce moment-là tout au bout de l'histoire de l'humanité. Nous voyons que le ciel et la terre ont disparu. Et il ne reste plus qu'une chose, il reste le trône de Dieu et il reste les hommes incrédules devant lui. Et je dois insister sur ce point. Ceux qui comparaissent devant le tribunal du jugement dernier, le grand trône blanc, ce ne sont pas les chrétiens de l'Église enlevés, mais ce sont tous les pécheurs et incrédules qui auront refusé d'écouter de Jésus. Écouter Jésus. Et le deuxième point, c'est que ceux qui comparaissent devant le Seigneur à ce moment-là, ce sont des hommes, des êtres humains. Puisqu'il est question de résurrection, ce ne sont pas simplement des âmes qui vont être jugées à ce moment-là, mais ce sont des hommes. Le Seigneur nous dit bien dans l'évangile de Jean chapitre 5 que tous ressusciteront. Les bons comme les méchants, les justes comme les injustes. Et les injustes ressusciteront, c'est-à-dire que leur âme, qui est gardée jusqu'au jour du jugement, captive dans l'abîme, leur âme va réintégrer leur corps va être renouvelé. La seule chose qui leur manquera, c'est le souffle de vie. Mais ceux qui comparaissent devant le Seigneur sont donc des êtres humains. Hommes, en tout cas âme et corps. Et ils comparaissent devant ce grand trône blanc du Seigneur, assis sur le trône. Et là, il nous est dit qu'il y a une multitude de livres et un livre. La multitude de livres nous rapporte tout ce que les hommes ont accompli de leur vivant, de bien et de mal. Et Dieu va juger les hommes d'après leurs œuvres. Et il va les juger d'après sa loi, la loi que Dieu a donnée à Israël à travers Moïse. Et les hommes seront jugés d'après les commandements qui sont donnés là. A-t-il menti? A-t-il convoité? A-t-il tué? A-t-il honoré Dieu? Etc., etc. Rien n'est oublié de tout ce que les hommes font, disent, pensent. Tout est consigné dans les registres de l'Éternel. Et puis il existe donc, à côté de tous ces livres, un autre livre, un unique livre, le livre de vie. Et ce livre est un livre glorieux. C'est dans ce livre que le nom des enfants de Dieu est inscrit. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? C'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Parce que ce livre, c'est le livre des citoyens du ciel. C'est le livre de ceux qui vont passer l'éternité auprès de Dieu. Mais ce jour-là, au jour du grand trône blanc, il se trouvera que tous ceux qui comparaîtront devant le Seigneur n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Et à cause de cela, la Bible nous dit qu'ils seront rejetés loin de Dieu pour être jetés dans l'étang de feu. Cet étang de feu, le Seigneur nous dit que c'est la seconde mort. Jésus particulièrement l'appelle la Géhenne. Géhenne. Géhenne vient d'un lieu, une vallée au sud-ouest de Jérusalem, la vallée d'Hinnom. Cette vallée d'Hinnom est innommable à bien des points, puisque c'est dans cette vallée que certains rois de Juda ont sacrifié aux divinités païennes des enfants, des sacrifices humains. Et lorsqu'Israël a été purifié de l'idolâtrie, cette vallée maudite est devenue la décharge publique. Et c'est donc là où on jetait tous les détritus, et c'est là qu'il y avait un feu permanent qui s'élevait. Et on peut imaginer donc l'odeur nauséabonde qui se dégageait de cette vallée de Hinnom. Et si Jésus a choisi d'appeler ce que nous appelons l'enfer, la Géhenne, nous voyons le rapport. Cette expression qu'il utilise décrit l'aspect vraiment désagréable de ce qu'est l'enfer. Mais s'il parle aussi de la Géhenne, à ceux qui l'écoutent à son époque, c'est pour leur parler aussi de la déchéance de ceux qui seront envoyés. La Bible dit « jetés ». Des hommes seront jetés comme on peut jeter des détritus. Parce que seront des hommes devenus sans valeur. Parce qu'ils n'auront plus le souffle de vie du Seigneur. Ils seront jetés dans les temps de feu, sans possibilité de délivrance pour l'éternité. Nous le voyons, tous ces termes nous montrent combien cet endroit, la géhenne, la seconde mort, l'enfer, est quelque chose d'affreux, de répugnant. Et la Bible a pris soin de nous enseigner sur ces choses, non pas pour nous faire peur, mais comme Paul le dit, il faut que nous connaissions ce qui est utile à notre foi. Et il est utile, c'est fondamental que nous soyons au clair quant aux choses que Dieu veut nous épargner. Parce qu'il n'est pas dans le plan du Seigneur de nous jeter. Dieu ne veut pas nous jeter, il ne veut pas nous rejeter. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et il est consistant avec lui-même. Et l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Pour qui donc l'enfer a-t-il été créé? Il a été créé pour le diable, pour Satan et pour ses démons. Pour qui le paradis, la nouvelle Jérusalem a-t-elle été créée? Pour l'humanité. Il y a une place pour l'humanité tout entière. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'hommes qui refusent d'entendre l'évangile. Et au lieu de marcher dans les voies du Seigneur, ils préfèrent marcher dans les voies du diable, dans les voies du péché. Alors Dieu les livre, il les abandonne à leur péché. Et ils vont de corruption en corruption. Et le jugement viendra sur eux, la colère finira par les atteindre. Et ils rejoindront en enfer celui qu'ils ont tant aimé servir pendant leur vie. Essayons maintenant de dire ce lieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ce lieu terrible, l'enfer, la géhenne? La première chose à retenir, c'est que c'est un lieu de séparation. Dans Matthieu 7, au jour du jugement, le Seigneur va dire à certains hommes, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et pouvons-nous réaliser ce que ça veut dire, entendre cette parole pour un homme venant de Jésus, « Retire-toi de moi. » C'est la parole la plus terrible qu'un homme puisse entendre de la part du Seigneur. Lui, l'espérance du salut. Dire à un homme, « Retire-toi de moi. » Éloigne-toi de moi, je ne veux plus de communion avec toi. L'enfer, c'est avant tout cela, un lieu sans communion avec Dieu. L'apôtre Paul dit que dans ce lieu, ceux qui y seront auront un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et être loin de Dieu, être séparé de Dieu, c'est être séparé de celui qui est la source de la vie, de celui qui est la lumière, de celui qui est l'amour. Et ceux qui seront là, dans ce lieu de perdition, se retrouveront alors plongés pour l'éternité dans des ténèbres et dans une solitude permanente. Et comme je le disais tout à l'heure, j'insistais sur cela, si dans l'attente du jugement à venir, ceux parmi les incrédules qui donc descendent dans le séjour des morts, je vous disais, ce ne sont pas des hommes, ce sont simplement des âmes qui y descendent. Mais en enfer, comprenons bien, ce sont des hommes, âme et corps, qui seront jetés en enfer, puisqu'ils auront ressuscité au moment du jugement dernier. Et ça nous amène à comprendre encore plus ce que sera l'horreur de ce jugement et de cette situation. Je dis donc tout d'abord, la géhenne est un lieu sans lumière, c'est un lieu complètement obscur. La Bible évoque deux moments dans l'humanité où des ténèbres sont venues. Les ténèbres de jugement. Il y a eu la plaie sur l'Égypte. Pendant 3 jours, les hommes ne sortaient pas parce qu'on ne voyait rien. Et la Bible nous dit aussi que dans les temps des jugements à venir, les temps des coupes de la colère de Dieu, un ange versera une coupe de la colère de Dieu sur le trône de la bête et ça déclenchera des ténèbres sur tout le royaume de la bête. Et la Bible dit que les ténèbres seront alors si épaisses que les hommes se mordront la langue de douleur à cause des ténèbres. Je crois que nous avons du mal à imaginer un lieu sans lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Un lieu sans lumière, c'est un lieu sans vie. Ça n'existe nulle part autour de nous et sur cette terre. Même dans la nuit la plus sombre, il y a encore de la lumière. Mais en enfer, il n'y aura pas un photon pour apporter un signe d'espoir aux hommes. Qui dit ténèbres épaisses, dit donc solitude. Et c'est là aussi qu'il s'agit un peu de remettre les choses à leur place, parce que, notamment avec Dante et les livres, toute l'imagerie populaire qu'il y a, il y a cette idée que le paradis, l'enfer, ça sera une espèce de grande fête. Enfin, une grande fête d'orgie, de débauche, un truc. Non, c'est un lieu de solitude. Les hommes seront seuls. Seuls sans contact. Seuls sans échange. Seuls sans aucun rapport social possible avec un autre être humain. Même le riche, dans le séjour des morts, au fond de l'abîme, pouvait encore lever ses yeux et voir Lazare dans le sein d'Abraham. Mais en enfer, il n'y aura plus rien à voir. L'angoisse, la douleur qui saisira ces hommes sera terrible. C'est pour ça que le Seigneur évoque souvent cette expression des grincements de dents. Ceux qui seront jetés en enfer auront des grincements de dents. C'est pas une image qui parle de tristesse, c'est une image qui parle de colère. Une colère terrible de ceux qui seront là, dans les ténèbres, dans la solitude. Mais je voudrais aussi vous amener à réfléchir à ça. Ceux qui seront dans cette situation seront entièrement livrés à la puissance du mal, à la puissance du péché. Lorsque, il y a 15 jours, je parlais sur le péché, je vous parlais de cette grâce de préservation de Dieu. Dieu préserve les hommes, même les pécheurs, de sombrer complètement dans le péché, dans le mal. Sinon, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de planète Terre. Mais en enfer, il n'y aura plus cette préservation. Tout le mal qui peut naître dans le cœur de l'homme sera entièrement exprimé. En quelque sorte, les hommes deviendront de véritables démons, habités complètement par le mal. Et on imagine alors dans quel état ces hommes finiront par arriver. Enfin, concernant ce lieu de la géhenne, la Bible nous mentionne trois choses pour nous décrire l'état de souffrance et de tourment dans lequel ils seront. Elle nous parle tout d'abord de feu. Nous l'avons lu tout à l'heure, ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Et le Seigneur nous parle souvent de cette géhenne qui est un étang de feu, un lac de feu. Certains s'interrogent quant à la littéralité de ce feu et évoquent peut-être un symbolisme. Pour ma part, je resterai sur l'idée de feu parce que le Seigneur en parle trop souvent. Les prophètes en parlent. Les apôtres en parlent. Et quand la Bible appuie quand même sur une idée, sur un concept en permanence, je crois qu'il nous faut être attentifs à ce qu'elle nous dit. Maintenant, encore une fois, il ne s'agit pas d'inventer des choses. La Bible n'a jamais évoqué des espèces de marmites dans lesquelles les hommes sont jetés et sont constamment harcelés par des démons avec des fourches qui mettent les bûches dessous. Ça, c'est de l'imagerie populaire. Ça n'a rien de biblique. En êtes-vous convaincus? Savez-vous pourquoi, d'ailleurs? Parce que les démons eux-mêmes seront dans le feu. Satan ne règnera pas en maître dans cet enfer. Satan lui-même sera lié, prisonnier et jugé. Et c'est pour ça, laissez-moi vous dire que beaucoup de textes que j'ai lus de certains qui ont eu des visions, des révélations de l'enfer me laissent avec beaucoup, beaucoup de prudence. Parce qu'il y a trop d'imageries populaires qui ne correspondent pas du tout à ce que la Bible nous enseigne. Soyons prudents. L'apôtre Paul, quand il est allé au ciel que le Seigneur l'a enlevé, il lui dit « J'ai vu des choses, mais il ne m'est pas permis de les exprimer. Et d'ailleurs, je n'ai pas les mots pour les exprimer. » Et je crois que s'il a dit ça de là-haut, restons prudents quant à ce qui se passe en bas, n'est-ce pas? Contentons-nous, et c'est suffisant de ce que la Bible nous dit. et entendant le message de la parole de Dieu alors. Elle nous parle de feu, elle nous parle aussi de soufre. Ouh, le soufre. Vous avez vu des reportages sur les volcans ? Le soufre, matière non métallique, qui brûle intensément et qui, dans sa combustion, dégage une odeur abominable. Et le soufre est souvent associé au jugement de Dieu. Lorsque Dieu a jugé Sodome et Gomorre, il y a une pluie de soufre. Alors ça nous amène une autre dimension à ce que doit être l'enfer. Vous imaginez les odeurs de soufre en permanence. Et puis la troisième chose qui n'est pas du tout agréable, ce sont les vers. Jésus nous dit, au sujet de la géhenne, que c'est le lieu où le ver ne meurt point. Il fait référence bien sûr à la tombe d'abord. Quand le cadavre se décompose, c'est parce que en grande partie son oxygène se brûle et parce que les vers mangent le reste. Mais quand il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'il arrive au ver ? Il meurt. Mais en enfer, il ne meurt point. Il y a toujours quelque chose à manger. C'est répugnant. Nous le reconnaissons bien. Et je crois que si le Seigneur a voulu que nous sachions tout ça, c'est pas pour nous faire peur. Mais c'est pour nous avertir et pour nous détourner de ce chemin. Le Seigneur ne veut pas que l'on prêche l'enfer pour garder les chrétiens dans la peur. Jésus est celui qui nous a délivrés de la puissance de la mort, de la puissance de Satan qui détenait la mort. Il nous a délivrés de la servitude de la mort. Alors, allons-nous prêcher un message qui tiendrait ensuite les chrétiens dans la peur de la mort ? L'évangile, ce n'est pas prêcher la condamnation, c'est prêcher le salut et la vie. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Mais il nous faut aussi annoncer ce qu'il y a de l'autre côté. L'enfer est un lieu si terrible que le Seigneur nous dit ceci. Mieux vaut se couper une main, un pied, s'arracher un œil, et être donc dans la vie manchot, boiteux ou borgne, que d'aller dans la géhenne avec deux mains, deux pieds et deux yeux. Mais béni soit le Seigneur, parce que lui a donné ses mains, ses pieds, son visage à notre place. Ses mains percées par le clou, ses pieds percés par le clou, son visage battu de coups, c'est notre salut, c'est notre délivrance, c'est notre espérance. Alléluia! Le Seigneur a livré son corps et il est descendu dans le séjour des morts. Il n'y est pas descendu vaincu, il y est descendu vainqueur, il y est descendu en conquérant. Ce n'est pas la mort qui a saisi Jésus, c'est Jésus qui a forcé les portes de la mort. Lui, il est la vie éternellement. Et quand le Seigneur descend dans le séjour des morts, c'est pour aller confronter la mort sur son terrain. Et pour proclamer un message de délivrance à tous ceux qui étaient captifs et dans l'attente de la venue du Messie, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans l'Ancien Testament, qui sont morts dans l'espérance comme Abraham, que le libérateur viendrait. Et Jésus est venu leur dire ceci comme il l'avait dit aux hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Et le Seigneur est descendu dans le sein d'Abraham pour aller chercher tous ceux qui avaient cru en lui, mais qui étaient retenus dans l'attente de la délivrance. Et le Seigneur est venu apporter la délivrance à ceux qui étaient morts dans l'espérance. Il a brisé les portes du séjour des morts. Il s'est emparé des clés du séjour des morts. Et lorsqu'il est ressuscité, il a pris avec lui tous ceux qui étaient dans l'attente de la résurrection. Et la Bible dit, étant monté en haut, il a fait des captifs. Il a pris avec lui tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et il les a menés dans le paradis là-haut. Quant à tous les autres, tous ceux qui étaient dans l'abîme, tous les méchants, tous les incrédules, tous les pécheurs, il n'a pu que leur confirmer que parce qu'ils n'avaient pas cru, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis, le jugement viendrait et qu'ils ne pouvaient rien pour eux. Le Seigneur l'a dit, Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a accompli ainsi cette promesse donnée à l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mon frère, ma sœur, ça change tout. Jésus nous a délivrés de la puissance de la mort. Paul l'écrit, l'esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Et lorsque quelqu'un en Jésus-Christ meurt, il ne meurt pas dans la peur, il ne meurt pas dans la crainte. Il sait que son âme n'ira pas dans l'abîme. Mais il a cette confiance dans le Seigneur, que non seulement il rendra son dernier souffle à Dieu, mais que le Seigneur prendra son âme et la transportera dans le paradis, dans l'attente de la résurrection. Oh, il m'est arrivé plus d'une fois d'accompagner notamment des membres de ma famille dans leur dernier souffle, dans leurs dernières heures. Et quelle paix! J'ai été marqué, peut-être plusieurs d'entre nous ont été marqués par cela. Un corps fatigué, brisé, peut-être par la maladie, par l'âge, par un accident. Mais une vie intérieure intacte. Ne pouvant plus s'exprimer par les mots, mais demeurant là. Et dans leur dernier souffle, leur âme est partie auprès de Dieu. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Mais je dois finir en disant ceci. Ne vous comportez pas comme Félix. Et là, je m'adresse à la fois à des gens qui viendraient pour l'une des premières fois parmi nous, mais je dois m'adresser aussi à des chrétiens qui sont comme Félix aujourd'hui. Car je crains que dans notre génération, il y ait beaucoup de Félix dans les églises. Des gens qui viennent vers Dieu dans l'espérance de recevoir quelque chose. Des gens qui n'aiment entendre l'évangile que lorsqu'il est question de promesses, de bénédictions, d'amour, de grâce, de bonté, de paix. Mais des gens qui deviennent effrayés dès qu'il est question de tempérance, de jugement à venir, d'éternité. Alors là, vous m'en parlerez une autre fois. Ne parlez pas de la justice de Dieu. Dites-moi combien Dieu est bon. Mais l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens d'Éphèse qu'il leur a prêché tout ce qui était utile. Et si la Bible nous dit que la doctrine du jugement éternel est une doctrine fondamentale, alors nous ne devons pas l'esquiver. Ne soyons pas forcément religieusement corrects. Soyons bibliques. Mon frère, ma sœur, ne sois pas un Félix. Ne reste pas un Félix. Parce qu'un Félix dans l'Église, c'est quelqu'un qui n'est jamais sûr de son salut. C'est quelqu'un qui compte sur la bonté de Dieu. Mais qui ne peut pas dire véritablement « j'ai l'assurance du salut ». Alors c'est quelqu'un qui vit constamment dans, à la fois dans la crainte, parce qu'il n'est pas sûr, dans la repentance, parce qu'il a constamment, même si nous devons vivre dans un esprit de repentance, mais je veux dire, c'est une repentance qui est toujours remise à zéro, il n'y a jamais de progrès, parce qu'ils esquivent. Ils ont peur, ils se tiennent en retrait. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne veut pas de cette vie pour toi. Il ne veut pas que tu demeures un Félix, mais il veut te libérer de la servitude de la mort, de la peur de la mort. Il veut que tu repartes de ce lieu en appréhendant la doctrine du jugement à venir, non pas comme quelque chose qui te terrifie, parce que tu sais que ce n'est pas devant ce tribunal que tu comparaîtras. Tu sais qu'au jour de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur ne t'oubliera pas parce que tu as confessé son nom et tu marches avec lui. Ne sois pas un Félix, je t'en prie. Ne dis pas dans ton cœur, ces choses me font peur, ces choses sont bizarres, comment expliquer cela, mais comment est-ce que dans la Bible il peut y avoir de telles choses, mais Dieu n'aime-t-il pas tous les hommes? Dieu aime tous les hommes. Mais la doctrine du jugement dernier fait partie aussi de la justice de Dieu. Et elle s'accomplira. Alors, demande au Seigneur, si c'est ton cas, de te délivrer de cette peur. Parce que nous pouvons parler de l'enfer sans crainte. Nous n'avons pas de phobie. Nous voulons dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons même pas besoin d'en rajouter. Nous n'avons pas besoin de parler de marmite ou de tout ce que vous voulez. Nous disons ce que la Bible nous enseigne, ça nous suffit. Je promets qu'une prochaine fois, je vous parlerai de la cité de Dieu. Il y a des belles choses à dire, hein. Mais aujourd'hui, il fallait parler de cela. Ma prière maintenant, c'est que tu repartes de ce lieu, réconcilié avec Dieu. Et peut-être réconcilié avec cette doctrine. Que tu ne la mettes pas de côté. Que tu ne t'arrêtes pas dans la lecture de la Bible à Apocalypse chapitre 4. Parce qu'après, oulala, les choses ne vont pas dans le sens que tu veux, mais que tu puisses lire toutes ces choses avec un esprit de prière, pensant à tous ceux qui autour de nous vont directement par une autoroute à quatre voies dans ce lieu de perdition. Je voudrais que tu repartes en paix. N'esquive pas ce matin, mais laisse la parole de Dieu remplir ton cœur. Alléluia.